Voilà, nous continuons sur Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Voilà, nous en étions sur l'histoire du serviteur d'Abraham qui était parti chercher une femme pour Isaac. Et sachant que c'était une grande responsabilité, il a prié le Seigneur, il a dit, voilà à quel signe je reconnaîtrai la femme que tu as choisie pour Isaac. Au verset 10, 24 et 10, c'est écrit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc, on a fait tout un long discours sur ce sujet-là. Donc, le choix de la future femme, on a expliqué que cette condition fixée par le serviteur d'Abraham, c'était une condition dans laquelle on trouvait la volonté de non seulement être dans faire le choix de Dieu, mais aussi il y avait les qualités de la femme dans cette condition-là, parce que déjà une femme qui allait accepter de donner de l'eau à un étranger, c'était déjà bien, mais en plus donner de l'eau aux chameaux, ça allait être un ouvrage très difficile, un travail très difficile, puiser de l'eau, tout en sachant qu'un chameau assoiffé boit 135 litres d'eau. Donc ça allait être un travail immense à faire boire 10 chameaux, mais la femme s'est quand même proposée pour cela. Donc même si dans sa prière, le serviteur attendait une réponse selon Dieu, mais dans sa prière, il y avait aussi une attente d'une femme ayant un bon caractère. C'était ça qui importait et non pas le côté physique ou d'autres conditions. Donc, on a parlé longuement de ça. Et aujourd'hui, avant de passer à autre chose, on voudrait souligner le fait que c'est possible que Dieu nous conduise. Nous avons une démonstration. Dieu conduit. Donc c'est possible que le Seigneur nous conduise. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, mais est-ce que moi, Dieu peut me conduire? Dieu peut me montrer les choses? Peut me dire ce que j'ai à faire? Oui, il peut. Il suffit que tu y crois. Ça commence par le fait que tu y crois. Quand tu y crois, Dieu va te conduire. Parce que quand on a du mal à croire que Dieu nous conduise, effectivement, on ne saisira pas pendant qu'il parle. Mais lorsque nous reconnaissons qu'il peut nous conduire, effectivement, il nous conduit. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait ce serviteur d'Abraham. Oui, oui.
Est-ce que, pasteur, tu peux nous donner quelques indications dans la mesure où il arrive quelquefois qu'il n'y a pas de signe visible? Il y a certaines personnes qui sont des fois confrontées à des choix, mais il n'y a pas de signe. Voilà. Est-ce que la conviction seule du cœur suffit pour prendre une orientation?
Alors, donc, quand Dieu veut nous, Dieu nous conduit, il finit par être très clair, même s'il commence par la conviction du cœur, même s'il commence par des petits signes, de très petits signes, quand c'est lui et que nous ne sommes pas à l'aise, parce que la conviction du cœur peut suffire si elle est suffisamment forte pour nous faire avancer. Mais si malgré la conviction du cœur, nous sommes faibles, Dieu va rajouter autre chose. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous envoyer dans le manque d'assurance. Beaucoup pensent que, voilà, Dieu ne va pas insister. Dieu ne va... Non, il va insister. Il veut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Si la petite voix qu'on a entendue suffit pour nous, on est convaincu, il n'y a pas de problème. Mais si la petite voix, le petit signe qu'on a reçu ne suffit pas, on est en droit de demander quelque chose de clair et de fort. D'ailleurs, c'est ce que ce monsieur a demandé. Il a demandé quelque chose de clair et de fort. Il a dit, vous savez, déjà, il faut savoir qu'on l'a envoyé dans une famille précise. Abraham a dit, va dans ma famille. Hein. Donc, il pouvait charnellement enquêter, savoir où est chez Nakor. Je cherche Nakor. On va l'amener chez Nakor et là, discuter avec Nakor, savoir quelle est la fille la plus sage. La plus... Non. Lui, il a vraiment voulu que ce soit Dieu qui fixe les choses. C'est pourquoi il dit à Dieu, c'est au puits que je veux savoir. Et donc, nous aussi, prenons cela comme une liberté que Dieu nous donne de vouloir en savoir plus concernant sa volonté. D'ailleurs, c'était le cas avec Gédéon. Il était convaincu qu'il devait, que l'esclavage d'Israël devait cesser. Il en était convaincu, mais il ne se sentait pas, lui, capable de mener ce combat. Il ne se sentait pas capable. Et librement, il a dit à Dieu, je ne me sens pas capable. Je sais que tu peux nous libérer, mais moi, je ne m'en sens pas capable. Tu me dis que ce serait moi. Pourtant, la voix, c'est quand même un ange qui lui a parlé. Hein. C'était fort. Mais c'est là aussi pour revenir que ça ne veut pas dire que puisque Dieu s'est manifesté d'une manière puissante qu'on sera beaucoup plus convaincu que quand c'est d'une manière légère. Non, ça, on ne sait pas comment ce processus-là se fait. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de grands signes, mais ils savent que c'est Dieu qui leur demande de faire quelque chose. Alors que d'autres personnes reçoivent des grands signes, mais ils hésitent encore. Voilà, donc c'est quand même lié au cœur. Et là, le monsieur demande quelque chose de clair, mais en même temps, qui est lié à la volonté de Dieu. Il ne demande pas une femme belle, il ne demande pas voilà, une femme riche, il demande qu'elle ait un bon caractère, puisque si c'est une femme peut donner de l'eau à des chameaux d'un étranger comme ça, c'est que c'est une bonne femme. Et je reviens encore sur la question du pasteur, c'est que Dieu, quand il nous a parlé par la conviction de cœur et que cela ne suffit pas, on est en droit de demander d'autres signes jusqu'à ce qu'on soit dans l'assurance dans notre action. On est en droit et on peut faire ce genre de contrat avec Dieu. On peut faire aussi un contrat avec Dieu, dire à Dieu, si tu ne me dis rien, donc je prendrai telle direction. Donc on peut faire des contrats avec Dieu. Cet homme a fait un contrat avec Dieu. Il lui a dit, la femme que je prendrai, c'est la femme qui fera ça, 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 ça. Il a fait un contrat. De sorte que si ces conditions-là sont remplies, c'est la femme. Donc on peut faire des contrats avec Dieu, dire, bon, je considérerai que tu m'as parlé lorsque je verrai telle chose, telle chose. On fait un contrat avec lui. Sans que, bien sûr, ça soit fantaisiste. Oui.
Dans cette notion de contrat, il arrive quelquefois qu'on est en face de certaines personnes qui témoignent de la gloire de Dieu, qu'il a fait des contrats avec Dieu, Dieu a exaucé. Pourtant, la vie que lui démontre, la vie qu'il son témoignage n'est pas forcément bon. Donc, à quel moment on doit être sûr que là, c'est le Seigneur qui agit, ou ça peut être tout simplement, bon, c'est vrai que Dieu permet toutes choses, mais est-ce que ça vient directement de Dieu ou pas?
C'est l'avenir qui nous montrera. L'avenir nous montrera et les conditions fixées. Comme je dis, il ne faut pas que ce soit fantaisiste. Cet homme a dit, la femme qui me donnera de l'eau, hein, et la femme qui acceptera de nourrir, de donner de l'eau à mes chameaux. Donc, il y a quand même une condition qui est liée au caractère, au bon caractère. Si par exemple elle avait dit la femme qui aura des cheveux de 45 cm, bon, donc là on voit que c'est des conditions un peu fantaisistes, donc ce n'est pas dans ces choses-là qu'on va mêler Dieu. On doit demander des choses qui correspondent à Dieu lui-même, à sa parole. Et quand on fixe ce genre de conditions, le Seigneur agit. Et on peut demander aussi des signes miraculeux. Donc, comme Gédéon avait demandé un signe miraculeux, il a dit, je vais laisser la toison, et puis voilà, je veux que seule la toison soit mouillée. Ensuite, je veux que la toison soit sèche. Donc, on peut, je pense que le Saint-Esprit nous conduit, et si on a le courage de poser des conditions à Dieu, on peut le faire comme cet homme a fait. C'est juste que la leçon que nous devons retenir, c'est que Dieu peut conduire les gens. Dieu peut nous conduire. Cet homme n'était pas un serviteur spécial de Dieu. D'ailleurs, il a dit « Dieu d'Abraham ». Il s'est considéré comme loin de ce Dieu-là, mais il a reconnu la toute-puissance de ce Dieu-là. Il a dit « Tu peux quand même, parce que c'est Abraham qui m'envoie, tu es son Dieu. Alors, fais en sorte que je fasse le bon choix, et bien voilà ce que je te propose comme contrat. La femme qui fera ça, ben je considérerai que c'est toi qui l'as envoyé pour moi. » Ou Isaac.
Ma question est, dans quel cas on pourrait donner des conditions à Dieu? Parce qu'il y a certaines personnes qui donnent des conditions, mais en faisant un choix qui est un péché. Par exemple, une personne qui n'est pas mariée, qui dit « J'aimerais avoir un enfant, et Seigneur, si je trouve quelqu'un, vraiment, si ce n'est pas ta volonté, arrête-moi. » Maintenant, dans quelles conditions qu'on pourrait, en tout cas, donner des conditions?
Oui, mais tu as déjà répondu. Donc, on l'a dit, il faut que ça cadre avec Dieu lui-même, avec sa parole. Donc là, quelqu'un demande quelque chose qui est en lien avec un péché. Donc, ce n'est pas bon. Ou une pression qui peut être une sorte de convoitise. L'apôtre Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Quelqu'un va faire des demandes. Amen. Qui montrent que c'est sa convoitise qu'il veut satisfaire. Et là, on voit la demande est liée à un choix de bon comportement. Un bon caractère, une bonne femme, c'est pas lié à des choses qui satisfont la convoitise charnelle. Mais je voulais, avant qu'on passe, souligner que Dieu peut conduire. C'est une réalité. Donc nous continuons avec le chapitre 25.
Attends, il y a une autre question encore.
Ah oui.
Non, c'est pas une question parce que je vis que le pasteur il allait passer. Moi, quand je lis, la partie qui m'a plu, c'est verset 19. Parce que le pasteur nous avait expliqué que le chameau, il prenait au moins 130 litres d'eau. Et je vis que la fille, il a dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Donc, ça m'avait vraiment touché.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on voit bien que c'est une réalité. Il devait puiser pour les chameaux. Donc, pour les chameaux, il ne s'agissait pas d'une cruche, mais il fallait puiser, puisque les chameaux sont capables d'arriver jusqu'à plus de 100 litres. Et donc, nous continuons plutôt, ce n'était pas fini le chapitre 24, nous continuons au verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nakhor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nakhor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais. Quand tu auras été vers ma famille, si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, « Bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nakhor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque les serviteurs d'Abraham eurent entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Ils passèrent la nuit et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lakaï, Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà. Donc, une histoire extraordinaire, et j'aime la prière de cet homme quand il dit il bénit le Seigneur parce que le Seigneur l'a conduit. Donc il insiste sur ça, voilà au verset 48. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. C'est agréable d'être conduit par Dieu, de faire les choses. Tu as l'impression, comme Abraham avait dit d'ailleurs à ce serviteur, l'ange de Dieu va te précéder. Donc tu as l'impression que tout est planifié, tout est organisé. Maintenant, ça ne veut pas dire que toujours tout est positif. Mais au moins, tu sais que c'est Dieu qui conduit tout. Quand le Seigneur commence à souffrir, il a dit carrément aux gens qui étaient venus l'arrêter, c'est l'heure des ténèbres. Donc, il savait que c'était la volonté de son Père. Donc, le problème, ce n'est pas forcément de vivre de belles choses, des choses agréables. Le problème, c'est d'être conduit par Dieu. Être conduit par Dieu donne une assurance, une sécurité, une paix extraordinaire. Tu te dis, bon, c'est vrai que le malheur m'atteint, mais Dieu m'a prévenu. On a vu même David, lorsqu'il est chassé du pouvoir, il a dit, bon, Dieu me chasse du pouvoir. Je vais juste pleurer et quand je serai triste, il va me ramener. Donc il n'a pas voulu se battre par lui-même. Il a laissé, parce qu'il savait qu'on lui avait prophétisé que le malheur est entré dans sa famille. C'est en train de s'accomplir. Être conduit par Dieu, c'est vraiment agréable. Et c'est ce que je voulais vraiment souligner. La conduite du Seigneur, c'est possible et c'est agréable. Et mais ça demande la foi. Ça demande vraiment de dire, de prendre des risques, de dire bon, je fais le contrat avec Dieu et je m'attends à lui. Parce que il pouvait faire. Nous, on a vu beaucoup de gens qui ont fait des contrats, mais quand le contrat s'accomplit, ils trouvent un défaut. Oui, mais elle est courte. Mais non, mais toi, tu n'avais pas fait le contrat en disant quelle taille ça sera. Tu as fait le contrat par rapport à l'eau. Maintenant que ça s'accomplit avec une personne, tu trouves un défaut, tu trouves un blocage. Et beaucoup ont fait des serments à Dieu en disant, si tu me fais ceci, je ferai cela. Mais quand Dieu a fait, ils ont trouvé encore des excuses pour retarder. Il y a un monsieur qui a eu une maladie incurable. Un jour, il est entré dans une réunion chrétienne et le serviteur qui prêchait lui a prophétisé que ta maladie est due à la désobéissance. Et lui, comme il ne se sentait pas encore chrétien, parce que voilà, à force de ne pas guérir, il a fini par suivre des amis ou des parents chrétiens pour aller dans des réunions de prière. Mais il s'est dit, mais quand est-ce que moi j'ai eu à faire un contrat avec Dieu et désobéir? Il ne se souvenait pas, il disait, mais non, ce pasteur-là se trompe. Et quand il est rentré chez lui, il s'est rappelé que quand il était jeune, un jour il se noyait et il s'était crié dans son cœur, « Dieu, si tu me sauves, je te servirai. » Et donc quand il a été guéri, sauvé, il a oublié, il a recommencé sa vie normalement. Et des années sont passées, la maladie est venue et quand il s'est souvenu de ça, il s'est repenti, il a été guéri instantanément. Donc c'était ça qui bloquait. Donc beaucoup ont fait des contrats comme ça avec Dieu, des promesses comme ça avec Dieu, et qui, lorsque Dieu fait sa part, eux, ils oublient de faire leur part. Et c'est ce qui explique qu'on voit beaucoup de chrétiens tourner en rond, parce qu'ils n'honorent jamais leur part. Ils n'honorent jamais leur part. Il y a des gens qui vont dire, mais je crois que Dieu t'a utilisé pour me parler. Mais maintenant qu'il dit ça de sa bouche, c'est lui-même qui dit, c'est pas toi. Dieu t'a utilisé pour me parler. Une semaine après, il fait le contraire de ce que toi tu lui as dit. Mais finalement, pour une autre raison bien sûr, hein, pour une autre raison. Moi je me souviens d'une dame qui était venue à la fin du culte. Il me dit, pendant que tu prêchais, Dieu m'a dit que c'est toi qui est mon pasteur, c'est toi qui dois maintenant me diriger. Il dit, ah bon?
Ah ben.
En discutant, elle finit par dire qu'elle avait un groupe de prière. Elle dirigeait un groupe de prière à Londres, tout ça. Moi, je dis, ben, je tiens quand même à t'informer. C'est toi qui viens de dire que Dieu t'a dit que j'étais ton pasteur. Je tiens à t'informer qu'à un moment donné, tu seras obligé de laisser ce groupe-là être dirigé par un homme, parce que bon, Dieu peut accepter que pendant un temps, la femme dirige un groupe, mais pas indéfiniment, parce que Dieu ne veut pas que la femme prenne le dessus sur l'homme, l'autorité sur l'homme. Et c'était la dernière fois aussi que je la vois. Hein. Donc, contradiction. Tu viens de dire que Dieu veut que tu me diriges, que tu me... Maintenant, voilà, Dieu veut faire maintenant sa part. La personne se défile. Donc, et beaucoup de gens ont des contrats comme ça, des phrases comme ça, c'est des contrats. Quand cet homme dit que si tu me sauves de la noyade, je te servirai. Lui ne sait pas qu'il vient de faire un contrat. Et beaucoup de gens disent des phrases, ils ne savent pas que ces phrases-là sont des contrats. Et maintenant, quand Dieu veut faire sa part du contrat, il trouve une excuse pour dire, ce qu'il m'a dit là, ce n'est pas ma doctrine. Mais oui, mais toi, tu viens de dire que Dieu l'a mis pour toi. Donc c'est cela, et cette dame-là, finalement, plutôt ce serviteur-là, bénit le Seigneur qui l'ait conduit, et nous devons toujours, pour toute chose, laisser le Seigneur nous conduire. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Laissons le Seigneur nous conduire. Et parfois, ça paraîtra être des échecs. Vaut mieux échouer avec le Seigneur que réussir par nos propres efforts. Vaut mieux échouer avec le Seigneur. Parlons au Seigneur. Cet homme, c'était même pas son Dieu, mais il dit le Dieu de mon patron. Mais il savait qu'il était tout puissant. Il lui a parlé, mais à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu? Donc pourquoi ne pas, pour toute chose, organiser avec le Seigneur, discuter avec le Seigneur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque des gens, même étrangers, l'ont fait. Oui?
Moi, je voulais juste rajouter la fidélité des serviteurs au passage au verset 56. Et les frères et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me gardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Donc là, vraiment, ça m'a touché parce que j'ai vu que cette personne s'est détournée vraiment des distractions. Parce que s'il restait, ça pourrait lui distraire aussi, sorti du plan de Dieu.
Ah oui, donc, il pouvait lui-même trouver une femme là-bas et puis rester.
Donc vraiment, il est
faire sa vie. Voilà. Surtout qu'il avait amené beaucoup d'argent. Hein.
Voilà. Donc c'est ça qui ça m'a beaucoup touché de sa fidélité.
Moi, je rajoute, à part le fait d'éviter les distractions, c'est que tenir à sa mission. Il tenait. Parce que qu'est-ce qui l'anime? C'est sa mission. On m'a donné une mission. C'est ce que je dois faire. On m'a donné une mission. Un vrai serviteur de Dieu a sa mission dans la tête. Donc, vaut mieux qu'il meure, mais c'est sa mission qui compte. Mais le frère Paul le dit dans Actes des Apôtres, au verset 20-24. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Pourquoi on trouve que certains sont légers et d'autres sont fermes? C'est l'attachement à la mission. 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc c'est sa mission qui compte, ce n'est même plus sa vie qui compte. Maintenant les gens vont te dire, mais tu seras en danger là où tu pars. À un moment on a dit à Jésus, mais quand il devait ressusciter Lazare, tu seras en danger là-bas. Il a dit, attention, je dois faire pendant qu'il fait jour les œuvres de mon Dieu. Père, voilà, je dois accomplir ma mission pendant que j'en ai la force, bien-aimé, pendant que tu as la force, tu dois t'éclater avec Dieu. Que personne ne t'amène à t'économiser, alors que Dieu, lui, explose en toi. Les gens vont te dire, mais t'exagères, tu as arrêté ceci. N'écoute pas, c'est ta mission qui compte. Mais bien aimé, c'était logique quand même la demande qu'on lui a faite. 10 jours, tu veux amener, vous savez bien aimé, il n'y avait pas encore les avions. Il n'y avait pas les trains. Donc c'est un voyage de plusieurs jours. Et puis pour se voir, ça va être encore dans les 10 ans, 15 ans. Donc quand des parents comme ça te demandent de laisser leur fille, juste 10 jours. Il a dit, ah non. J'ai déjà très bien réussi, je ne veux pas échouer à la fin. C'est ça sa thèse. Il dit, Dieu a déjà fait réussir mon voyage. J'ai déjà trouvé la femme. Je ne veux pas prendre le risque de rester. Donc, allez, on y va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bien-aimé, quand tu sens que Dieu est dans le vent avec toi, il faut en profiter à fond. Il faut en profiter. Quand tu sens que tu as l'onction de prier, prie. quand tu sens que tu parles avec quelqu'un, ça coule, tu ne sais même pas, les paroles viennent toutes seules. Parle. Si quelqu'un à côté te dit, mais tu as déjà beaucoup parlé, mais et que toi tu sens que ça sort, ça sort. Parce que ça rejoint ce qui est écrit, maudit quiconque retire son épée du carnage. Le monsieur a dit, j'ai déjà bien réussi comme ça. Mais je continue dans la réussite, je rentre maintenant. J'ai déjà eu la femme, je rentre. Ma mission avant tout, c'est important de se rappeler de ça. Notre mission avant tout, ni ta femme, ni tes enfants, ni les voisins, personne ne doit t'empêcher d'accomplir ta mission. Jésus l'a dit, quiconque aime ses parents, sa femme, ses enfants, lui-même, plus que moi, n'est pas digne de me suivre. Donc, puisque à un moment donné, tu choisiras entre ta mission et tout ça, c'est la mission qui compte. Mais il faut savoir une chose, la mission n'est pas contre la famille, la mission n'est pas contre tout ça, mais charnellement, il y aura des choix à faire qui donneront l'impression que la mission est maintenant contre le reste, pas du tout. Parce que quand tu obéis à Dieu, Dieu te bénit dans tout ce que tu as, les enfants et consorts. Mais ça peut donner l'impression que tu les ignores. Ce n'est qu'une impression, mais en réalité, quand tu es dans l'obéissance à Dieu, tout le reste qui dépend de toi sera dans la bénédiction. Et nous continuons, donc nous revenons là, nous voyons Rebecca de retour. Dès qu'il voit que c'est Isaac, elle ne se met pas à danser, hein, à ONU, à vouloir montrer je ne sais pas quoi. Au contraire, elle met un voile. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait les choses selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens pour attirer, ils s'habillent n'importe comment, parce que maintenant, Rebecca a compté sur Dieu. Dernièrement, quand on a fini le concert de la chorale, on revenait, on a vu des jeunes filles avec des hauts talons de 40 cm, elles n'arrivaient même pas à marcher. Donc ce n'est pas ça qui va faire qu'on t'épouse. Donc Rebecca, elle a mis le voile. Parce que c'est Dieu qui lui donne le mariage, ce n'est pas les attraits physiques. Chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Voilà la réponse que Rebecca reçoit. Deux nations sont dans ton ventre et il y a un peuple, deux peuples qui vont se séparer et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Donc Ésaü, qui veut dire roux. Et non, Édom, puisqu'après on va lui donner plutôt le nom d'Édom, qui veut dire roux. Isaac était âgé et on lui donna le nom. Et ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Voilà les deux enfants d'Isaac. Et on arrive au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, d'Édom qui veut dire roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà, donc cette affaire fait couler beaucoup d'encre. Donc, ça nous... Toujours quand on cite cette affaire-là, revient le problème de la prédestination, toujours. Donc les gens se disent, mais oui, mais c'était comme ça, c'est Dieu qui a décidé les choses ainsi, ainsi de suite. C'est vrai que c'est un problème complexe. Voilà. C'est un problème complexe qui est là. Dieu prédit l'avenir. Maintenant, est-ce que quand Dieu prédit l'avenir, c'est lui qui a fixé les choses? Donc moi, je ne suis pas d'accord. Donc Dieu prédit l'avenir parce qu'il a la capacité de connaître l'avenir. Mais ce n'est pas lui qui pousse quelqu'un à être mauvais, quelqu'un à être charnel. Lui, il prédit l'avenir parce qu'il le connaît. Un point, c'est tout. Comme quelqu'un qui connaîtrait le résultat d'un jugement qui s'est passé à huis clos. Il y a des jugements qui se font à huis clos, c'est-à-dire personne n'assiste que les intéressés, les juges, les jurés, seuls eux assistent. Donc un juré connaissant l'issue du jugement, ça ne veut pas, et que au dehors il en parle, ça ne veut pas dire que lui, il a déterminé le jugement. Il a la connaissance avant les autres. Donc Dieu a la connaissance avant tout le monde, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fixé les choses. Et là, on voit que Rebecca est dans la confidence de Dieu et elle s'attache à Jacob, alors que Ésaü, lui, comme il aimait manger le gibier, donc il s'est attaché, non, plutôt Isaac, comme il aimait manger le gibier, il s'est beaucoup plus attaché à Ésaü. Mais n'empêche que Isaac restait quand même un homme de Dieu, mais il s'attache à quelqu'un charnellement. Donc on voit bien que on peut être serviteur de Dieu et faire des choix charnels. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu que tout ce qu'on va faire comme choix, c'est bon. Donc on peut faire des erreurs. Donc il y a un attachement. C'est clairement dit parce qu'il aimait le gibier. Hein. On n'a pas dit autre chose. Hein. Donc il s'est attaché à Ésaü parce qu'il aimait le gibier. Donc Ésaü lui amenait souvent de la viande, donc du gibier. Donc et il aimait ça et il s'est attaché. Donc on peut être chrétien, mais avoir des attachements charnels avec d'autres personnes. C'est une réalité. Donc on doit veiller sur tout cela, parce que ça peut nous jouer des mauvais tours. Voilà. Et ça peut augmenter le nombre de choix charnels. Donc dès qu'on constate qu'il y a un choix charnel, on doit mettre un stop. Parce que tout le monde ne sera pas comme Isaac. Malgré le choix charnel, il va faire quelque chose de bien à la fin. Oui, il y a Frère qui veut parler. Donc il y a comme on verra, Isaac va faire de bonnes choses malgré...
Oui, ma question, c'est par rapport à la coutume. En fait, le droit d'aînesse, il est institué par Dieu ou institué par la coutume?
Moi, je pense que c'est quelque chose de naturel. Donc, c'est quelque chose de naturel que l'aîné soit celui qui est venu avant, soit l'autorité de ceux qui sont venus après. C'est naturel. Mmh. C'est un droit naturel.
Je pose la question parce que on voit que, à certaines reprises, Dieu vient souvent, il vient contrer parfois cette logique-là. Parce qu'on va voir aussi avec Joseph et ses enfants, avec Ephraïm et Manassé, je crois, il fait aussi la même chose. C'est-à-dire que Joseph va demander à ce qu'on bénisse le plus petit avant, au lieu de bénir le plus grand en premier.
Oui, donc et Dieu, voilà, il va régulièrement contrer ce qui est naturel, afin qu'on ne se repose pas sur ce qui est naturel, qu'on se repose sur ce qui est spirituel. Donc Dieu veut qu'on s'intéresse sur ce qui est spirituel. C'est pourquoi il contre tout ce qui est naturel.
Oui, parce qu'on voit souvent, j'ai déjà eu des discussions comme ça, avec des personnes qui veulent souvent opposer la coutume ou alors cet ordre-là parfois qui est mis en place avec Dieu, avec la volonté de Dieu.
Je n'ai pas souvent compris.
En fait, dans les discussions que j'ai parfois avec des personnes, ils viennent souvent mettre en rapport la coutume et Dieu en disant que la coutume, en fait, c'est Dieu qui l'inspire.
Ah non, non.
C'est ce qu'ils disent.
C'est naturel. C'est des choses naturelles. Mais le Seigneur veut que nous, en tant que ses disciples, nous nous attachions au spirituel. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de contradictions entre le naturel et la volonté de Dieu. Je donne un petit exemple. Comment expliquer que la Terre, une petite planète comme ça, soit la seule qui soit habitée là. Donc, à quoi servent toutes les étoiles s'il n'y a pas d'autres planètes habitées? Donc, toutes ces étoiles-là ne servent qu'à nous éclairer, à nous distraire, nous, donc à être... Mais c'est ce que dit la Bible, hein. La Bible dit que les étoiles ont été mises pour nous fixer les jours, les nuits, c'est le firmament, juste pour nous, tout ça. Mais les humains n'arrivent pas à comprendre comment il peut y avoir tout ça, des milliards, des milliards, mais il n'y a que la Terre où il y a des êtres vivants. À cause de ça, ils font des recherches, ils dépensent des milliards. C'est parce que leur naturel n'arrive pas à accepter ça. Mais Dieu ira toujours contre la nature pour nous montrer que c'est lui qui est Dieu. Voilà, c'est ça la réalité. Et là, c'est l'aîné dont on dit qu'il sera assujetti au plus petit, afin que nous puissions avoir toujours un regard spirituel sur toute chose, sans tomber non plus dans une contestation machinale, mécanique de tout ce qui est naturel. Quoi. Voilà.
Par rapport au point que tu as soulevé concernant les liens charnels qu'on peut avoir avec certaines personnes, à quel moment on sait qu'on a une relation charnelle avec une personne, qu'on est lié charnellement?
Quand nous arrivons à ne plus juger les choses d'une manière honnête, sérieuse, mais parce qu'influencé par ces personnes-là, on prend des positions, mais ce ne sont pas des positions basées sur la parole ou sur la vérité, mais juste par amitié, par pression. On a vu le Seigneur Pierre lui parler en ami. Hein. « Oh Seigneur, on ne te tuera pas, on ne veut pas, on t'aime. » Mais le Seigneur a dit « Arrière de moi, Satan. » Il ne s'est pas dit « Ah, je vais attrister Pierre. » Je vais annuler. Non. Donc, il n'avait pas une relation charnelle avec Pierre. Il avait une relation spirituelle. Et dans 2 Corinthiens 5, 16, il est écrit, si on connaissait les gens d'une manière charnelle, on doit arrêter. On doit les connaître d'une manière spirituelle. Donc, le lien charnel, c'est que la situation est là. La Bible dit ceci. La vérité nous montre cela. Les faits nous montrent une chose. Mais toi, tu choisis une position qui va t'éviter les problèmes avec les gens avec qui tu es attaché. Voilà, tu le fais juste par rapport à cet attachement-là. Mais souvent, on me dira que souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense que Dieu montre quand même. Après, quand on est trop attaché charnellement, on refuse. Hein, on refuse. D'ailleurs, c'est ça la différence entre Isaac et et d'autres qui font des choix parfois charnels, Isaac, quand il s'est rendu compte de la volonté de Dieu, il s'est laissé faire.
Voilà. Et donc, sur le long terme, qu'est-ce que l'on risque à être attaché charnellement à une personne ?
À sortir carrément de la volonté de Dieu. Hein. On va sortir de la volonté de Dieu parce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1, 10, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Donc, ceux qui vivent dans un attachement charnel qui finalement nuit à la vérité de l'Esprit de Dieu, finiront par sortir de la volonté de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont en contradiction avec les pensées de la chair. Donc ça finira. Ça peut nous arriver de faire des choix charnels, mais quand Dieu nous parle, on se ressaisit, on demande pardon. Mais ceux qui vont insister sur cette voie-là finiront par sortir de la volonté de Dieu.
Donc forcément, si on veut se détacher d'une manière charnelle, ça amènera forcément une séparation.
Ah oui, non, si on veut suivre la vérité plutôt, ça amènera forcément une séparation. Maintenant, si on veut suivre la chair, ça amènera aussi une autre séparation, mais avec Dieu. Voilà, donc ça sera une séparation d'un côté ou d'un autre. On suit Dieu, ça sera la séparation avec des liens charnels qui nous corrompaient. On suit les liens charnels, bon, ça sera la séparation avec Dieu. Donc il faut s'unir dans la vérité. C'est ça la meilleure unité. Et donc là, nous voyons Isaac maintenant, nous sommes au chapitre 25 toujours. Nous voyons qu'à cause des lentilles, Ésaü vend le droit d'aînesse. À cause de la nourriture, il vend le droit d'aînesse. Parce qu'il s'est dit quoi ? Il dit au verset 31, au 32, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Le droit d'aînesse, ce n'est pas comme un lingot d'or que tu tiens. Ce n'est pas comme un sac rempli de billets. C'est un droit d'aînesse. C'est une autorité comme ça. C'est tout. On ne voit pas ça physiquement. L'homme charnel est attaché à ce qu'il voit. Ésaü dit, mais je vais mourir. Quand je vais mourir, le droit d'aînesse, ça va me faire quoi? Ce qui est important pour moi, c'est de manger maintenant. C'est maintenant que j'ai faim. C'est maintenant que je vais manger. Et c'est ça qui va tuer beaucoup de personnes. La recherche de la satisfaction immédiate. C'est maintenant que je veux l'argent. C'est maintenant que je veux être fort. C'est maintenant que je vais réussir. La satisfaction immédiate. Maintenant, Dieu te promet, mais la promesse, ce n'est pas quelque chose qu'on tient comme ça physiquement. Les gens ne veulent pas de la promesse. Ils ne veulent pas de la conduite du Seigneur. Ils veulent toucher. Et Ésaü est clair. Il dit, moi, je suis un homme d'action. J'ai faim, je mange. Jacob, lui, c'était un homme de méditation. Voilà. Ésaü, c'était un homme d'action. On va faire la chasse. Il a faim, il mange. C'est quelqu'un qui devait avoir beaucoup plus de richesses que Jacob, même s'ils étaient tous enfants de même père, dans le sens où, comme il était dans l'action, il lui suffisait d'attendre environ 2 heures pour avoir un bon repas et le manger copieusement. Mais les hommes charnels, les femmes charnelles n'aiment pas attendre. J'ai faim maintenant. Je mange maintenant. Ils n'aiment pas attendre. C'est là où on les tient. On dit, mais sois correct pendant 2 ans et après 2 ans, tu seras heureuse, tu seras heureux. Non, ils veulent tout de suite que la situation change, quitte à vendre l'autorité spirituelle, à vendre les promesses de Dieu, à vendre la fidélité de Dieu. Moi, je veux la satisfaction maintenant. C'est maintenant. C'est ça fait partie de l'une des grandes tentations à laquelle a été confronté le Seigneur Jésus. Le diable lui dit, je vais te donner les royaumes, maintenant. Or, Jésus était déjà roi, mais sa royauté allait se manifester plus tard, clairement. Mais on lui propose maintenant. Jésus dit non, 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 non. Je vais servir que mon Dieu. Voilà, je vais attendre ce que Dieu a promis pour moi. Et le droit de naissance allait fonctionner quand ? Allait fonctionner le jour où Isaac allait partir. Esaïe veut dire à Jacob, attends, le temps qu'Isaac s'en aille, toi, ça va me faire quoi le droit de naissance maintenant ? Donne-moi, je mange, si tu veux, tu prends ça, ça va faire quoi à moi ? Isaac est encore là, donc le temps qu'il s'en aille. Ouais. Oui, mais le temps qu'il s'en aille, un jour, ce temps-là arrive toujours. Et les gens disent, mais le temps que le Seigneur revienne, moi j'ai faim, j'ai besoin d'argent maintenant. Mais le temps où que le Seigneur va revenir, ça finira par arriver. Vous savez, les dictateurs, beaucoup les dictateurs qui font 40, 35 ans de pouvoir, quand ils sont partis voir le féticheur leur a dit, bon, on signe un contrat, tu auras 35 ans de règne. Mais lui s'est dit, mais 35 ans, vous savez, 35 ans, un enfant né, il va à l'école maternelle, collège, lycée, bac, il travaille. Il se marie, il a des enfants et il n'a pas encore toujours 35 ans. Mais quand on te dit que tu auras le pouvoir pendant 35 ans, mais tu as l'impression que ça ne finira jamais. Vite fait, tu fais le contrat de sang avec le diable, tu donnes ta main, on fait l'incision, le sang coule, tu prononces des incantations, tu dis, mais 35 ans ? Oui, mais un jour, 35 ans arrive. Ça arrive, donc quand on dit, mais le Seigneur revient bientôt, il y a des gens, nous on se tient à l'écart, bien aimé, il y a des trucs parfois qu'on vit au travail, des jeunes qui te manquent de respect, mais tu te dis, mais bon, tu es chrétien, tu vas faire quoi? On attend le jour où on sera roi et on verra bien si quelqu'un nous manque de respect encore. Là. Mais, entre-temps, on est humilié. Un petit jeune, parce qu'il sait qu'on est en France, on ne peut rien faire. Il te parle mal, tu dis, tu signes ton exclusion. Il dit, je ne signe même pas, il s'en va. Parfois, tu souhaites, ah, si ça pouvait être en Algérie, on était en Algérie, là. Ou bien au Congo, ou bien je ne sais où. Mais, on est en France. Tu te dis seulement, ah, Seigneur, bon, on attend le jour où tu reviendras dans ton royaume des 1000 ans, où nous serons rois à tes côtés. Ben on va voir un petit jeune encore qui va dire quelque chose. Non, on attend, ça fait, c'est loin, hein, mais on sait qu'un jour, ça arrivera. Donc les gens pensent que ça ne viendra pas, mais droit de naissance, mon papa est vivant. Qu'est-ce que je fais du droit de naissance? Tout ce que, quand je veux faire quelque chose, c'est le papa qui parle. Quand je fais, c'est le papa qui tranche. Bon, à quoi sert le droit de naissance maintenant? C'est les lentilles qui sont utiles maintenant. Donne-moi le potage, tu prends ton droit de naissance. Mais le problème, c'est qu'un jour, le papa va mourir et c'est là que le droit de naissance, tu vas comprendre son importance. C'est à ce moment-là. Et soyons spirituels, ne soyons pas charnels. Oui.
Dans le cas d'Ésaü, le fait qu'il vende son droit de naissance, ça a été irréversible. Est-ce que ça sous-entend que dans notre cas, s'il y a certaines choses auxquelles nous avons renoncé pour vivre un bonheur très court, est-ce qu'aujourd'hui encore il est possible qu'on se retrouve dans cette situation-là?
Non, moi je
ne... Ou bien par la repentance?
Oui, vas-y.
Ou bien par la repentance on peut rétablir les choses?
Moi je pense que même Esaü, il pouvait rétablir les choses, il n'a pas fait, hein. il pouvait inverser. Donc Dieu accorde le pardon. La preuve, c'est que Isaac, il a fait une préférence. Il a ignoré. Est-ce que Rebecca ne lui avait pas dit? Je pense qu'elle lui avait dit. Tel qu'on voit Rebecca, telle qu'elle est décrite, je crois que Rebecca avait dit à son mari, voilà ce que Dieu m'a dit par rapport aux enfants qu'on a. Mais Isaac a ignoré quand même à cause du gibier. Mais à la fin, comme on va voir, quand il a béni Jacob, il a compris qu'il s'est fait avoir. Malgré le fait qu'il s'est fait avoir, il s'est ressaisi. Il a dit, c'est quand même la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Donc, on peut se ressaisir. Mais si on ne le fait pas, donc on est toujours sous la malédiction, sous l'erreur. Donc on peut se ressaisir aussi. Des gens ont renoncé à leur spiritualité, à l'autorité spirituelle, parce que l'autorité spirituelle, elle est invisible. Elle est invisible, on ne voit pas. Il y a des anges qui sont là, on ne les voit pas. C'est ça l'autorité spirituelle. Mais le matériel, c'est que le compte bancaire, tu le vois. La voiture, tu la vois. Un homme qui est suivi par des millions de personnes, on voit. Mais un homme qui est suivi par des millions d'anges, qui voit ça? Personne. C'est ça l'autorité spirituelle. Et beaucoup de gens veulent le visible maintenant. Et ils utilisent des procédés visibles aussi pour s'attirer le visible. Alors que les gens spirituels, eux, ils préfèrent demander ce qui est important, l'autorité spirituelle. Il veut rester humble pour recevoir l'autorité spirituelle. Il préfère une relation de vérité pour l'autorité spirituelle. Parce qu'ils se disent, si je fais une relation de fausseté, je perds l'autorité spirituelle, mais je gagne ce que je veux aujourd'hui. Ils préfèrent attendre dans une relation de vérité la bénédiction de Dieu plutôt que à tout prix faire de bricolage charnel qui ne vont pas donner, qui ne vont pas aller loin. Donc c'est ça, l'homme charnel et l'homme spirituel. On a parlé de Lot. Là encore, on a un exemple d'un homme charnel, Ésaü, un homme d'action, un homme physique qui finalement choisit l'immédiateté, la force du présent, la force de la chair, plutôt que le droit d'aînesse, quelque chose de spirituel, d'invisible, mais de très puissant. De très puissant. Mais puisque ce n'est pas visible, on ne. Et ça n'est pas soucié. C'est ce qui se passe parmi beaucoup de chrétiens qui s'attachent au visible au lieu de s'attacher à l'autorité spirituelle que Dieu donne. Et finalement, donc, il cède. Alors Jacob, verset 34, donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc il a méprisé l'ordre naturel des choses. Voilà. Nous arrivons au chapitre 17, et au verset 17 du chapitre 26, parce que nous tenons quand même à citer quelques exploits d'Isaac, un exploit d'Isaac. Nous n'allons pas lire la partie où Isaac a fait la même erreur qu'Abraham, dire que sa femme était sa sœur pour s'éviter des problèmes. Mais Dieu a encore agi comme avec Abraham. Il a prévenu les gens pour leur dire, vous ne touchez pas cette femme-là. C'est pour dire que, voilà, ça existe, le fait qu'on imite les choses des parents, ça existe. Donc Isaac a fait la même erreur. Et donc c'est pourquoi nous devons toujours considérer les erreurs de nos prédécesseurs et les rejeter. Et les rejeter parce que si on ne les rejette pas clairement, on fera les mêmes erreurs parce qu'on se dira, ah, je comprends pourquoi elle avait fait ça, parce que moi aussi je me retrouve dans la même position. On va dire, je comprends. Alors que si vraiment on rejette ça clairement, quand ça arrivera, on tiendra bon. Donc verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ések, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Voilà. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voilà, donc ça c'est un petit commentaire qu'on reprendra plus tard. Nous revenons sur l'histoire des puits. Donc, Isaac reconstruit les puits que son propre père avait fait. Mais comme ils étaient dans une terre étrangère, on vient le menacer, il laisse. Il construit encore un autre puits, on vient le menacer, il laisse. Donc, il est écrit, verset 21, il s'est servi de creuser un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits et l'appela Rehoboth, car, dit-il, Dieu nous a mis au large. Bien-aimés, c'est une grande leçon de puissance spirituelle. Quand on est dans la puissance spirituelle, on ne s'impose pas physiquement. Isaac fait le puits, on vient lui chercher des problèmes, il laisse faire. Il va faire un autre puits. On vient lui chercher des problèmes, il laisse faire. Quand je dis qu'il laisse faire, il faut savoir que Isaac, c'était le descendant d'Abraham. Abraham, vous vous souvenez qu'il avait fait un combat contre plusieurs rois, lui tout seul. Donc Isaac pouvait faire aussi des combats. Mais il a discerné qu'il n'avait pas à faire des combats. Il avait à compter que sur Dieu. C'est ça le serviteur spirituel, l'homme de foi. Il a préféré pas se battre physiquement. Il a dit, je laisse. Je peux encore, il y a encore de la terre. Je peux construire un autre puits. Bien-aimé, Dieu est immensément riche, tout puissant. Quand on est embêté, on laisse. On laisse. Et on fait autre chose avec lui. On est encore embêté, on laisse. Dieu nous mettra au large. Et on voit comment Dieu lui apparaît après cet épisode-là. Ça veut dire beaucoup. C'est après cet épisode-là que Dieu lui apparaît pour lui dire, je suis avec toi. Parce que Isaac, en ayant ce comportement, il a montré qu'il avait foi en Dieu. On le prive du puits de son propre père, il laisse. On le prive, il fait encore un autre puits, on le prive, il laisse. C'est là que Dieu lui apparaît pour lui dire, je suis avec toi. Parce que tu es un homme spirituel, tu m'as compris. Le Seigneur cherche des gens qui vont vraiment compter sur lui. Quelqu'un qui compte sur Dieu ne se bat pas pour obtenir des avantages. Il ne se bat pas humainement, physiquement pour obtenir des choses. Il prie. Il compte sur Dieu. Il sait que Dieu lui donnera. Ce que les hommes sont en train de lui prendre, Dieu lui donnera. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand on vous prend une tunique, vous donnez l'autre. Il veut dire quoi? Dieu vous donnera toujours même plus. C'est pourquoi donnez même encore l'autre. Qu'on ne nous entraîne pas dans les conflits de vouloir se disputer des choses, des territoires, des objets matériels, se disputer qui est le meilleur, qui est le plus beau, qui est le... Qu'on ne nous entraîne pas dans ça. Si quelqu'un veut prendre le titre, vous lui laissez prendre le titre. Quelqu'un veut prendre un objet, vous lui laissez. Quelqu'un veut prendre la place de l'homme spirituel, laissez-le prendre. Il y a le terrain, et le terrain est grand. Voilà, ne nous battons pas pour ce genre de choses. Laissons Dieu faire. Et il y a une deuxième leçon qu'on apprend là, c'est la persévérance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Par la persévérance d'Isaac, Dieu a agi. Et quand Dieu a agi, les gens qui combattaient Isaac sont venus le voir pour dire, nous reconnaissons que tu es un béni de Dieu. Alors ne nous attaque pas, s'il te plaît. Nous voulons faire alliance avec toi. Mais faire alliance avec Isaac, ça veut dire quoi? Faire alliance avec Dieu lui-même, puisque Isaac est serviteur de l'Éternel. Je souligne cette affaire, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a plein de gens qui nous entourent et qui s'opposent à nous, ou qui trouvent qu'on est dans l'erreur, ou encore qui sont pour eux hein, en concurrence avec nous. Beaucoup de ces gens-là, Dieu nous a placés pour leur salut. Mais ces gens-là ne s'opposent pas toujours à nous bêtement. Ils s'opposent parfois à nous parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison. On ne doit pas considérer toute opposition comme une opposition bête. Toute opposition n'est pas bête. Il y a des gens qui sont vraiment convaincus que le féticheur de la famille est plus fort que le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas qu'il le fait par fanatisme. Non, il est convaincu que c'est comme ça. Il y a des gens qui sont convaincus que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas qu'ils le font par plaisir. Ils sont convaincus. Ils ne s'opposent pas à nous par plaisir. Ils sont vraiment convaincus. Donc nous ne devons pas prendre toute opposition comme une opposition bête, nulle. Non, il y a des oppositions par ignorance parce que les gens sont convaincus de ce qu'ils font. Et ces gens-là ont besoin de quoi? Ils ont besoin de voir la grande puissance de Dieu se manifester. Comment ils la verront? À travers notre constance et notre détermination. Ils ont besoin de nous voir constants et déterminés. Une façon de dire, il faut du temps pour que certaines personnes changent. Parce que dans leur esprit, ces personnes-là se disent, on finira par le fatiguer. Dans leur esprit, ces personnes-là se disent, on l'aura. Parce que je vous dis, je vous en supplie, parce que dans leur tête, ils pensent que ce que tu crois là, c'est des aventures. Tout le monde ne combat pas Dieu. Il y a des gens, quand ils nous combattent, ils veulent vraiment combattre Dieu. Mais il y a un pourcentage qui ne pense pas combattre Dieu, qui pense vraiment qu'ils combattent nous, et que nous, on est dans l'erreur en croyant en Dieu, et que tout ça n'existe pas. Donc ces gens-là, notamment les gens qui sont dans la sorcellerie, ils ont besoin de voir des vrais chrétiens. Et ça demande du temps. Ils ont besoin de nous embêter pendant longtemps, et que nous, on ne cède pas. C'est là que leur ignorance et aveuglement seront. C'est un appel, bien-aimé, a de la patience envers les mauvais. Je nous appelle à être persévérants. Il y a des gens qui ne s'opposent pas à nous en pensant s'opposer à Dieu. Ils pensent vraiment sincèrement qu'on est dans l'erreur. Il y en a qui savent que Dieu existe et ils s'opposent. Ça, c'est, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui le font dans la logique que oh, on est dans des croyances, c'est bête. C'est... Il y en a qui le font comme ça. Il y en a qui se disent, mais oh, il dit ça, mais on finira par l'avoir. On va le tenter de telle manière, on va l'essayer de telle manière, on finira par l'avoir, on va lui proposer l'argent, on finira par l'avoir. Ces gens-là ont besoin du temps. Au fait, ce temps-là, ça sert à quoi? À nous observer. Ils vont nous observer pendant un temps. Et quand à un moment, ils vont trouver vraiment qu'on ne change pas, ils vont se dire, alors là, il y a quelque chose qui est derrière lui. Il y a quelque chose qui est derrière lui. Mais ça demande du temps. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que, parfois quand ils nous attaquent, ils ne réussissent pas. Ils pensent que nous aussi, on a des fétiches. Lui, il prend des fétiches et il t'attaque. Ça ne marche pas, il se dit. Lui aussi, il a pris quelque chose. Maintenant, à un moment donné, à force de chercher à savoir qu'est-ce que toi tu as pris, il va rencontrer Dieu. C'est bien, mais c'est important le temps. Le temps de persévérance du chrétien sauvera beaucoup d'âmes. Parce que beaucoup de personnes sont vraiment sincèrement ignorants. Beaucoup de personnes sont vraiment sincèrement dans l'erreur. C'est pas que comme d'autres qui savent que Dieu existe et ils se battent contre Dieu à travers nous. Ah non, il y a des gens qui ne savent pas, qui pensent que nous aussi on a un pouvoir, qu'on a pris quelque part, comme eux aussi ils ont pris le pouvoir quelque part. Et donc c'est avec le temps qu'ils finiront par dire, ah non, ce n'est pas un pouvoir que cet homme a pris, mais il aime vraiment Dieu. Dieu doit exister. C'est avec le temps. Parce qu'avec le temps, ils vont essayer de plusieurs manières de nous faire renier Dieu. Ils vont essayer de plusieurs manières. Vous imaginez le centenier à la croix. Il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Parce que malgré tout ce qu'on a fait à Jésus, il va crier, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens l'ont entendu tout ça. Ils ont dit, mais non. Il y a un souci. Un des voleurs à la croix, il a bien aussi, lui aussi l'a injurié au début. L'autre voleur aussi a injurié. Mais avec le temps, Jésus ne répond toujours pas. Le deuxième voleur dit, mais non, là, il y a un souci. C'est là que les yeux s'ouvrent. Tout le monde n'est pas méchant comme ça contre Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas, qui pensent qu'on est comme eux et on joue aux hypocrites. Parce qu'ils en rencontrent aussi des chrétiens hypocrites. Et ils pensent que tous nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens qu'ils ont rencontrés. Ils ont vu d'autres chrétiens faire vraiment de bêtises. Jouer aux hypocrites. Et donc ils nous observent. Et seul le temps va trancher. Il faut du temps. Ils observent, ils essaient de corrompre un peu, ça ne marche pas. Ils essaient telle chose, ça ne marche pas. Ils essaient la nuit, ça ne marche pas. Avec le temps, ils vont même essayer, voilà, de nous faire du mal direct pour qu'on réponde par le mal. On ne répond pas par le mal. On va dire, là, cet homme ne cherche pas son intérêt. Il y a un souci, il cherche l'intérêt de quelqu'un d'autre. Parce que là, il ne se comporte pas comme un humain. Tout humain cherche quand même son intérêt. Lui, il ne cherche plus son intérêt là. Là, on a tout essayé, on a l'impression qu'il cherche l'intérêt de quelqu'un d'autre. Mais c'est qui? C'est là qu'ils vont rencontrer Dieu. On a besoin de ça. Non, plutôt les gens ont besoin de ça, ont besoin du temps. Ces gens-là ont maltraité Isaac. Ils l'ont malmené, Isaac n'a jamais répondu. Il faisait que se déplacer. Ah, tu me fais des problèmes pour ça, je me déplace. Je te laisse tranquille. Encore un autre puits, je me déplace. Avec le temps, ils se sont dit, mais il trouve encore de l'eau. Parce que quand ces gens font ça, ils disent, ah, il a pris de l'eau, l'eau est rare, il vient de prendre notre eau. Mais ils voient que tu creuses un puits, il y a encore de l'eau. On dit, ah, on va aller encore prendre l'autre. Mais tu pars encore, il y a encore de l'eau. Ils se disent, ah, ce n'est pas la peine de l'attaquer. Ce n'est pas la peine. Il y a une puissance qui est derrière lui, qui est plus forte que la nôtre. Allons nous humilier. C'est ça. Les gens vont essayer plusieurs choses. Il y a un homme qui est un grand sorcier en Côte d'Ivoire. Et vous savez, ces gens-là ont déjà fait tomber d'autres personnes qui se disaient chrétiennes. Oh, quand on lui dit, mais on lui présente ça, c'est un chrétien. Dit, oh, hier, j'ai fait tomber un pasteur. Donc, ce n'est pas le chrétien qui va me faire peur. Mais ceux qui ne savent pas, que c'est qu'il y a des vrais et des faux. Il y a des vrais et des moyens. Donc, quand tu es face à un vrai, même s'il a 4 ans, il va te vaincre. Voilà. Un vrai chrétien, même quand il a 11 ans, il est tout puissant parce que la toute puissance de Dieu est avec lui. Et puis, à un moment donné, lui, il faisait la terreur. C'était le grand. Tout le monde avait peur de lui. Mais à un moment donné, une jeune fille véritablement chrétienne a quitté la ville pour aller faire passer des vacances au village, là où cet homme-là régnait en grand sorcier. Et il arrive là, il propose à cette fille de devenir sa copine. Et la fille dit, non, moi je suis chrétienne, je ne fais pas ces choses-là. Tu dis, quoi? Toi, tu me résistes. Il revient, il lui propose encore de l'argent. La fille dit, mais non, l'argent ne m'intéresse pas. Dieu s'occupe de moi. Ah, le monsieur dit, mais tu n'es pas la première personne qui se dit chrétienne que moi j'ai fait tomber. Hein. On va voir. Le sorcier, il se transforme en serpent. Il dit, donc, quand elle va revenir de la rivière avec de l'eau, je vais la piquer comme ça, comme c'est moi qui guéris les piqués de serpents, les mordus par les serpents. On va l'amener chez moi, c'est là que je vais l'envoûter clair, comme il faut. Et il se transforme en serpent. Et la fille venait avec le groupe de femmes de la rivière. Mais en venant comme ça, avec son chant, je ne sais pas quel chant, je prends un chant par exemple, Jésus le roi des rois, alléluia Jésus. Mais le monsieur, lui, le serpent, qui est devenu serpent, lui, au lieu de voir, d'entendre bien le chant, il voyait plutôt un feu qui sortait de la bouche de la fille. Là. Maintenant, pendant que la fille s'approchait, le feu aussi s'allongeait, allait vers lui, dans sa direction, lui, le serpent. Même en qualité de serpent, il a détalé comme possible, puisque le feu devenait grand, il s'approchait vers lui. Le serpent, il a fui. Il s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir la nuit maintenant. Je vais faire des stratégies de nuit. Il revient la nuit, là où habitait la fille, pour essayer de l'envoûter par la sorcellerie. Eh bien, il voit l'endroit, la maison est clôturée par une clôture hyper haute. Il dit, mais ce n'est pas la clôture qui va me freiner, moi je suis un grand sorcier. Alors, il joue à l'oiseau, il monte très haut. Mais quand il monte très haut au-dessus de la clôture, il rencontre face à face l'ancien des jours. Donc un vieillard avec des cheveux blancs rayonnants qui était en face de lui, il tombe, boum! Toute sa magie est finie. Et le lendemain, il s'est converti à Jésus. Parce qu'il y a eu de la persévérance. Le chrétien doit être persévérant dans sa position. Parfois, ça peut prendre 10 ans pour que quelqu'un se convertisse. Mais cette personne-là a besoin de notre persévérance dans notre position. Beaucoup de gens ont changé. Et dès qu'ils ont changé, le païen dit, ah voilà, il a changé. Et il voulait que moi je suive. Voilà, il a changé de discours. Et il voulait que moi je suive. Tout le monde n'est pas mauvais bête. Tout le monde n'est pas mauvais aussi contre Dieu. Beaucoup sont mauvais par ignorance. Beaucoup sont mauvais parce que sincèrement, ils sont convaincus que leur méchanceté est une bonne chose. Et la bonne voie qui leur apporte puissance et richesse. De telles personnes ont besoin de chrétiens fermes et persévérants pour être interpellés, se poser des questions et se convertir. Nous ne devons pas faire comme ça. À chaque fois que nous faisons ça, de zigzag, nous freinons la conversion de beaucoup de personnes. Ils disent, mais il change à tout moment, il change. Moi, je vais le suivre comment? On a besoin de constance dans notre position, jusqu'au bout. Constance biblique. Et les gens diront, non, depuis que je le connais, il est comme ça. Vous savez, surtout des gens qui ont été nos amis. Ils ont besoin du temps parce que ton ami, pendant 25 ans, pendant 30 ans, t'a vu dans des bêtises, dans des rigolades. Mais quand tu changes, mais je le connais. Il a besoin de 10 ans, 15 ans après, il dit, mais rien n'a changé. C'est vrai que depuis qu'il a changé de route, il a vraiment changé. Voilà, aujourd'hui sa vie est bénie. Moi, je continue. Non, j'arrête, je vais le suivre aussi. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à persévérer. Parfois, l'attente n'est pas facile. L'attente de la délivrance, l'attente que Dieu nous justifie, ça peut être long. Mais ne changeons pas de position. Restons. Le Seigneur défendra son nom que nous nous portons et que nous défendons en obéissant à sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides à être constants, Seigneur. Par rapport à ta parole, par rapport à notre nature d'enfant de Dieu, Seigneur, par rapport à la foi, à ne pas aujourd'hui avoir la foi et demain avoir peur et faire des compromis qu'on dénonçait autrefois. Seigneur, aide-nous à être constants dans notre position. Ainsi, beaucoup de gens qui nous observent pour nous voir changer de position afin de se frotter les mains et dire que et c'était des positions hasardeuses, que ces gens-là, en nous observant, finissent par la conclusion du centenier romain au pied de la croix, celui qui a dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Merci Seigneur de nous aider à rester simples, humbles, sans intérêt personnel, recherchant toujours l'amour, recherchant toujours la vérité de ta parole. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ces enseignements qui nous fortifient. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.